Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue sur un match, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales retour de l'UEFA Champions League avec Paris SG Dortmund, mardi à 21h sur Canal Plus Foot et Real Madrid Bayern, mercredi à 21h sur Canal Plus et Canal Plus Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Vous écoutez
RMC.
RMC, le cri du cœur
du Super Moscato Show.
Alors nous accueillons Marc Vériotte, vainqueur du tournoi de Paris de judo, ancien membre de l'équipe de France donc, et puis après cette carrière, un membre du Raid policier d'élite. Salut Marc.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Merci de me recevoir.
Marc, ce qui est incroyable, c'est que Marc, il a signé un bouquin. Bon, franchement, c'est fascinant. C'est-à-dire qu'il raconte des opérations très, très dangereuses, très risquées sur des théâtres d'opérations, bah, les plus fous, hein, qui existent. Mais quand il voit Vincent Moscato, il a un grand sourire parce qu'il dit qu'il est fan depuis l'époque des rappeux tout. Non, c'est nous qui sommes passionnés, Marc.
Vous avez le même âge avec Vincent,
ouais,
tous les deux.
C'est une classe. Oui. C'est une classe. La classe d'incorporation, rappelez-vous, c'est l'année où tu rentres à l'armée. C'est une classe.
Voilà. Alors, Marc, tu racontes ta carrière dans un livre co-signé avec Karim Ben Ismail, journaliste de l'équipe spécialisée dans les sports de combat et également le rugby qu'on salue, qui s'appelle Au cœur du Raid, sous-titré 20 ans dans la colonne d'assaut du Raid. Dis-nous en deux mots, quel était ton boulot exactement ? T'es le policier qui est le premier sur les colonnes d'intervention d'urgence ?
Alors, pendant 20 ans, j'ai été en colonne d'assaut du Raid. En colonne d'assaut, ça veut dire opérateur de terrain. Et en effet, la deuxième partie de ma carrière, les 10 premières années, on est porteur de bouclier, on est voilà, et après on passe des spécialités. Et moi, les 10 dernières années, j'étais spécialiste effraction, c'est-à-dire ouvrir une issue, une fenêtre, une porte ou un mur. Et j'étais spécialiste explosif.
Donc, tu es en première ligne parce que tu dois faire ouvrir une porte grâce à des explosifs pour que tes coéquipiers, enfin tes collègues interviennent ensuite. Ça a été le cas donc.
Bon, on dit première ligne, mais je suis pas vraiment en première. Le première ligne, c'est vraiment celui qui est avec le bouclier.
D'accord.
Le premier. Moi, en effet, je le double pour ouvrir la porte, mais après, je le laisse passer. Et je rentre en septième position une fois que les deux premiers binômes sont rentrés.
Ils sont morts.
Je rentre en.
Rigole pas avec ça.
Ah ouais, non, mais là, si on invite des mecs.
Si on fait entrer avec
pas premier. Tu nous as invité, serrurier.
Oui.
Tu nous as invité, serrurier. Le mec qui arrive à
l'éclair, on rentre en septième. Je rentre en septième position pour ouvrir une deuxième porte.
Il y en a une.
Et pour renforcer la colonne d'assaut. Voilà. Alors, voilà, le premier colonne, c'est lui qui prend les balles dès qu'il franchit la porte. Non, c'est pas moi. C'est pour ça que j'essaie pas de chipper cette appellation de premier de colonne, parce que je l'ai fait ça. Parce que quand tu es à l'effraction, de temps en temps, tu passes en colonne et tu
reviens. Mais ça va bouger, non parce que les mecs, ils lèvent pas tous le doigt pour porter le bouclier d'entrée, non. Ils disent, alors, qui veut porter le bouclier en premier? Les mecs, ils passent tous la tête.
Et parfois, c'est un peu biblique, ouais. C'est-à-dire que le dernier devient le premier. Hein, voilà, le premier binôme rentre quelque part.
À l'école, et ça ne va pas arriver, ça.
Non, mais alors, tu racontes ça de manière très détendue en disant, c'est le premier qui essuie les tirs des forcenés, mais c'est ta réalité. C'est-à-dire qu'un jour, donc, tu interviens avec le Raid. Pour interpeller Mohamed Merah, et là, eh ben, tu te retrouves sous le feu des balles, tu es touché deux fois, raconte-nous.
Cette opération, elle a duré 33 heures, mais on pensait au tout début faire une arrestation de police judiciaire classique, c'est-à-dire qu'on a eu l'autorisation de donner l'assaut à 3 heures du matin, et on pensait qu'à 3h15, le terroriste allait être menotté dans son lit. Mais quand on a ouvert la porte de 15 cm, ça a tiré. Des premiers opérateurs ont été impactés. Un premier opérateur a été blessé, un trou rentrant, un trou sortant dans le genou. Après, il y a eu différentes ouvertures de feu. Et moi, au bout de 2h30 d'intervention, j'ai été blessé d'une balle en plein milieu du front dans le casque. Cette balle, finalement, elle m'a sauvé la vie parce que c'est du 11-43. C'est du très gros calibre, mais ça pénètre mal les blindages, comme c'est gros. Donc ça m'a fait basculer, ça m'a fait vriller. La deuxième balle qui aurait dû me toucher pleine gorge m'a tapé l'omoplate. Je suis tombé dans les escaliers et voilà, ça s'est passé.
C'est ton casque en Kevlar qui t'a sauvé la vie.
Oui, exactement.
Donc, alors, est-ce que tu peux nous décrire la tête qu'a ton casque après cette intervention? Il y a un trou de combien de centimètres?
Alors, en fait, il y a deux choses. Il y a l'impact de la balle. La balle est rentrée dans le casque, mais elle n'est pas ressortie, sinon je ne serais pas là. Mais en même temps, il y a une deuxième déformation, un peu comme une balle de tennis ou un coup de batte de baseball. Et c'est ça qui m'a frappé, qui a fait une hémorragie cérébrale. Voilà, j'entendais tout à l'heure Moscato dire que c'était un équivalent d'un service de Federer, mais ça ressemble plus à un jeune Alumou lancé.
Ouais, ouais. Ah, oui. Alors, tu prends cette balle en plein front, qui te fait vriller, ce qui te sauve la vie, sinon la deuxième balle t'aurait tué. Et à ce moment-là, tu perds pas tout à fait connaissance, mais t'es dans un état qui n'est pas un état de conscience.
Je tombe dans les escaliers. Là, je comprends pas trop ce qui se passe. J'entends un gros bruit dans ma tête. En fait, ça fait un gros tut pendant une quinzaine de secondes parce que ça fait un peu comme en boîte de nuit quand on sort avec un acouphène. Mais là, c'est l'onde de choc qui va directement du front aux oreilles et ça fait un grand tut dans ma tête. Moi, il vide son chargeur. C'est un chargeur de 7 balles. Il vide les 5 autres balles pour essayer de m'avoir en ricochet. Il ne me touche pas. J'arrive à me protéger sous l'escalier. Et là, moi, je m'ausculte parce que normalement, en intervention, il faut se concentrer sur la tâche technico-tactique. Il faut pas se laisser aller aux émotions ou à se regarder le nombril. Mais là, j'ai pas pu faire autrement. J'avais l'impression d'avoir une balle dans la tête. J'avais l'impression d'avoir une balle dans l'épaule parce que j'avais mal aux deux endroits. J'ai passé ma main pour aller chercher le sang. J'ai pas trouvé de sang. C'était du sang fantôme. Finalement, je saignais pas. L'épaule, j'avais une balle dedans pour moi, mais elle fonctionnait. Et j'ai été ramené à la vie, enfin, à l'intervention par un camarade qui dit, c'est Nemo qui hurle, Marco est touché, faut aller le chercher. Et là, je me suis dit, mince, ils vont passer devant les balles et ils vont s'en prendre à ma place. Et donc là, ça m'a ramené et j'ai appuyé sur ma radio pour dire, non, venez pas me chercher, je vais réussir à m'exfiltrer seul, je suis touché, c'est un tir visé. Mais je vais bien.
Et c'est parce que tu étais un peu en contrebas de l'escalier qui menait à la porte que ça t'a fait un abri qui t'a aussi sauvé la vie. Tu racontes dans le bouquin que malgré toute votre préparation, tout votre professionnalisme, tous les essais que vous faites, toutes les mises en condition, il n'y a jamais aucune opération qui se passe comme le plan était prévu ou comme vous avez déjà fait en exercice. Et que tout se passe sur l'instant, en fin de compte. Et qu'il faut avoir cette capacité d'adaptation presque ultime, sans quoi on est mort, en fait. C'est l'exemple de l'hypercachère que tu dois ouvrir, pour le coup, en tant qu'artificier. Et une information cruciale, qui est connue des services de police, n'est pas parvenue jusqu'à toi. Même ça a arrivé. Est-ce que tu peux nous raconter ?
Alors, je vais te la raconter, mais une intervention de police, c'est comme un match de rugby. C'est-à-dire que on essaie de tout automatiser, on automatise nos comportements, on automatise nos pensées, on automatise nos émotions, même on travaille tout ça. Mais pourquoi on automatise ? C'est pas pour devenir des robots, parce qu'on peut pas gagner un championnat de judo, un match de rugby ou une intervention en étant un robot. Parce qu'à chaque fois, l'opposition, elle fluctue. Et voilà. Et donc, en fait, nous, si on travaille des automatismes, c'est pour libérer de la place le plus possible dans le cerveau pour gérer l'imprévisible, et donc l'adaptation. Et donc, en fait, on ne fait que s'adapter. On n'y arriverait pas si on n'avait pas à travailler tous nos automatismes, mais voilà, on automatise le plus possible pour avoir de la place dans le cerveau pour gérer l'adaptation. Donc, en fait, non, on n'obéit pas à des règles, on s'adapte seconde par seconde.
Et qu'est-ce qui s'est passé à l'hypercachère ? Donc, tu dois ouvrir une voie, et ça ne se passe pas du tout comme prévu.
Oui, alors bon, c'est compliqué, tu mets directement le doigt sur un... En intervention, on apporte tous notre pierre à l'édifice. Bon, je fais un petit préliminaire, parce qu'il n'y a pas de grande perf sans préliminaire, mais les secrétaires apportent leur pierre. La logistique apporte sa pierre. Les négociateurs apportent sa pierre. Les cadres apportent leur pierre. Tout le monde apporte sa pierre. À la fin, on fait tous des erreurs et de temps en temps, voilà. Alors moi, je suis monté sur la porte en pensant qu'il n'y avait pas de barre. Ce qu'on ne m'avait pas dit, parce que les postes de commandement ont énormément de choses à penser, des relations à droite à gauche, des réglages avec les pompiers, avec les démineurs, avec tout ça. Mais simplement, moi qui étais avec mes camarades, avec le côté groupe d'assaut, on n'a pas été informé qu'il y avait une barre. Donc au dernier moment, il a fallu que je rajoute de l'explosif. C'est-à-dire qu'on a des prémontages. Les prémontages, on les manipule au dernier moment. On enlève un peu d'explosif à tel endroit, on en rajoute à d'autres. Tout ça se fait un peu comme une recette de grand-mère, parce qu'il n'y a pas, pareil, pour ouvrir une porte, il n'y a pas une méthode bien, bien stricte. Il faut s'adapter à la porte, qui est toujours changeante. Là, c'était une porte très difficile, parce qu'elle donnait sur la réserve, donc c'est une cible pour les cambrioleurs. Et elle était tirante, donc ça, c'est embêtant aussi, parce que, bien sûr, une porte tirante, c'est plus difficile à défoncer qu'une porte poussante. Donc au dernier moment, on m'a appris qu'il y avait une barre, donc il a fallu qu'on manipule de l'explosif pour nous adapter à ça. Et puis aussi
une barre qui barre les deux
portes. Une barre de renfort.
Une barre de renfort,
derrière.
Ouais, bien sûr.
Derrière.
Ouais.
Le poste de commandement le savait parce qu'ils avaient eu accès à un moment donné aux vidéos de sécurité.
Ouais,
où on voit le terroriste qui demande à un otage de mettre la barre.
Ouais.
Et puis je pense aussi qu'ils avaient le témoignage du
gérant ou de,
ouais,
de
celui qui s'est ou ouais, c'est ça voilà. C'est ça ouais. Voilà. Et puis aussi l'explosif, moi quand je donne l'assaut, enfin quand je monte avec mon camarade pour ouvrir la porte, on n'est pas non plus au courant que le terroriste dispose de 2 kilos d'explosifs. Pareil, c'est une information que j'aurais aimé avoir parce que tu prends pas la même distance de sécurité. Moi, j'ai ouvert la porte avec mon camarade avec une dose d'explosif bien que je connaissais. Mais plus
de. Tu es obligé
kilos.
De la gérer par rapport aux otages aussi.
Oui.
Tu
ne
vas pas balancer 10 kilos de machin parce que tu vas tuer des otages.
C'est ça.
Ouais.
C'est ça. Déjà, l'explosif, une porte, l'air de rien, c'est pas la dose d'explosif. C'est-à-dire que des fois, mettre trop d'explosif, ça ne marche pas non plus. Tu vas encastrer la porte dans le montant et plus personne ne va pouvoir y passer. Donc, il faut la dose juste, bien placée. Et parce que, surtout à Paris, le moindre explosif en trop, c'est de l'énergie qui, de toute façon, va vouloir croquer quelque chose. Mmh. Il va vouloir croquer soit le mec de la colonne d'assaut, soit les fractions, soit les vitres environnantes, soit l'otage. Et donc, cette énergie, il faut la maîtriser comme une petite vieille qui fait sa soupe, parce que sinon...
Alors, cet épisode, il est important. Alors, évidemment, tous tes récits sont fascinants, mais celui-ci, il montre aussi que parfois, il y a des gros dysfonctionnements dans le commandement. Et ça fait partie d'une des choses que tu racontes dans ton bouquin, qui vont aussi apporter un peu de lassitude et peut-être précipiter ton arrêt. Bon, alors je vous invite à aller lire tout ça dans le livre de Marc, Au cœur du raid. Il y a 1000 choses à raconter, mais je crois que Marion a une question particulière à te poser, Marc.
Oui, bonjour Marc. Moi, bonjour, en fait, ce qui m'intéresse énormément dans votre discours, c'est votre capacité non seulement d'analyse, mais surtout de gestion du stress. Et vous, finalement, vous avez deux zones d'évolution assez distinctes, que vous appelez par une zone de confort et une zone de haute pression, avec une pyramide verte et une pyramide rouge. Et vous exprimez le fait que finalement, même une personne, on va dire lambda, dans son quotidien, qui peut être soumise à un stress, à son travail, etc., peut utiliser un petit peu les mêmes systèmes de fonctionnement que vous avez, vous. Vous êtes soumis à un stress extrêmement élevé, bien évidemment, le plus haut, parce que vous avez la vie en jeu de personne. Est-ce que vous pouvez justement nous décrire un petit peu ces pyramides différentes et comment nous, dans notre quotidien, ou les gens qui nous écoutent, peuvent apprendre à un petit peu mieux gérer leur stress ?
Je pense en effet que on ne fonctionne pas de la même manière en zone de confort et en zone de haute pression. Et que nos habiletés, qu'elles soient physiques, mentales ou techniques, on ne les règle pas pareil dans les deux cas. Ces deux zones sont régies par des règles qui sont totalement différentes. Alors, il faut connaître ces règles pour pouvoir s'y adapter. Vous me posez une question sur l'adaptation à la zone de haute pression, c'est-à-dire au stress et toutes ces choses-là. Alors ça me fait penser que moi j'ai lu votre biographie et dedans, eh ben un des éléments pour vaincre le stress, quand vous dites que quand vous avez une période de doute, vous pensez à votre race que vous avez fait à Wimbledon et ça vous relance. Eh bien moi j'ai la même chose quand on me propose quelque chose de difficile à faire et que je me sens dépassé, je me dis mince, mais attends Marc, t'as gagné le Tour de Paris, t'as été bon sur Vincennes, t'es pas une merde, donc tu vas réussir à faire cette voilà. Bon bah ça c'est des choses, ça c'est un rapatriement de confiance, là on joue sur la confiance, mais c'est bien des choses qui sont faites pour s'adapter au niveau.
Ça reste dangereux si tu regardes, surtout si tu regardes
Marc Verrier,
le vainqueur
du Tour de Paris judo.
Dans ton bouquin, j'ai vu que t'as été grande peur, mais la plus grosse peur que tu avais, c'est de balader à Marseille après 23 heures.
Il y a des témoignages incroyables. Ivan Colonna aussi, on est parfois battu juste par le terrain et même par des moustiques. Ça peut arriver, même quand tu es positionné du raid, Marc.
Ouais, ce bouquin, je raconte mes interventions, raconte les coulisses et puis ce qui se passe dans la tête d'un opérateur pour rester efficace, comme dit Marion, en zone de haute pression. Mais je raconte aussi toutes les facettes que peut avoir des opérations au raid. Et en effet, la Corse, l'investigation, on fait de la protection. On fait de l'investigation, on fait de l'intervention et c'est riche en aventures et en anecdotes.
Faut être costaud parce que l'équipement il pèse combien ?
Alors moi je pesais 80 kilos en tenue noire, je pesais 120 kilos avec mon matériel de protection balistique et mon armement, et je pesais 150 kilos avec mon matériel effraction d'urgence.
Voilà, donc si vous êtes tenté par une carrière au raid, il faut bosser.
C'est 120 kilos,
on le sait. On le sait parce que.
C'est des slips à faute, ça, qui met.
Merci beaucoup, Marc. Donc, à lire, écrit avec Karim Ben Ismaïl au cœur du raid aux éditions Les Arènes. Bon, ça se lit très rapidement parce que ce sont des récits totalement.
C'est un honneur d'être ici. Merci.
C'est un honneur de te recevoir. Je veux te dire que là, on est. Tu nous as fait plaisir.
Merci Marc, et à bientôt sur RMC.